Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont vous pouvez trouver les derniers opus dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com puisqu'on est sur Radio Alpa. On aurait pu vous parler de Déméter, non pas la déesse de l'agriculture et des moissons, même si ça a un rapport, pas la marque de produits bio respectant le cahier des charges de l'agriculture biodynamique, même si ça a un rapport, non, Déméter, la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole. C'est beau comme nom. Une cellule de la gendarmerie chargée de lutter contre les vols et dégradations dont sont victimes les agriculteurs. Une cellule créée par en 2019 par Christophe Castaner. Vous vous souvenez, le ministre de l'Intérieur qui a laissé faire les tabassages en règle des gilets jaunes au mépris de toutes les lois, mais parce que ça lui sauvait sûrement une partie de son électorat. Eh bien oui, je rappelle cette utilisation des forces de l'ordre contre la population, car dans le cas de la cellule Déméter, elle est créée en lien avec les syndicats d'exploitants agricoles productivistes, la FNSEA et les JA, une cellule de gendarmes qui a aussi donc pour rôle de lutter contre l'agribashing. En clair, des militaires au service d'un groupe particulier, les exploitants agricoles. Et encore, les exploitants agricoles productivistes. En d'autres termes, on aurait appelé ça une milice. Il aura fallu 2 ans pour que le tribunal administratif de Paris reconnaisse que la gendarmerie est au service de la population et n'a pas à être instrumentalisée à des fins idéologiques. Ah ouais, c'est quasiment écrit comme ça dans les attendus de ce tribunal administratif. Dans le cadre de ce partenariat entre la gendarmerie et les syndicats d'utilisateurs professionnels de pesticides pour produire le plus possible, même si ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en tout cas ça fait descendre les cours, il ne fait pas bon critiquer le modèle dévastateur de l'agriculture productiviste. Non, parce que ça a été l'occasion pour cette cellule Déméter de mettre la pression sur des membres d'associations écologistes, de faire des interventions à l'école, notamment dans un lycée agricole privé de Loire-Atlantique, où la gendarmerie est venue se fendre d'un petit discours sur le fait que c'est pas bien de critiquer le productivisme. La gendarmerie utilisée pour empêcher d'autres voies que celles du productivisme, tout va bien. Cet épisode montre encore une fois la dérive clientéliste du personnel politique. Dans le cadre de leur réélection, les politiques au pouvoir caressent leur clientèle qu'autrefois on appelait électeurs dans le sens du poil. Et ils utilisent les moyens mis à la disposition de tout un chacun, en l'occurrence de la République, puisqu'ils sont à la tête de cette République, pour continuer à brosser justement leur clientèle dans le bon sens. Et là, eh bien, ils dévoient leur action en créant des textes législatifs, des dispositifs, des partenariats sur mesure qui vont servir une catégorie de la population. Les chasseurs, par exemple, qui ont eu plein de petits avantages pendant 5 ans, les agriculteurs productivistes, les propriétaires, les plus riches. Bah, rappelons quand même la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, par exemple. Toutes ces mesures visent à contenter un socle de clients qui aura à cœur de renouveler sa confiance au candidat, bien sûr, puisque celui-ci assurera travailler pour l'intérêt général, mais il se contentera d'agir pour sa clientèle une fois élu. Encore une dérive de la démocratie dite représentative. Décidément, il faudrait quand même un jour que nous décidions à nous occuper de nos affaires sans déléguer notre souveraineté à des mercantis avides de dorures. On aurait pu vous parler des activités de plein air. Mardi 1er février avait lieu une manifestation des invisibles du social et du médico-social. C'est comme ça que c'était indiqué sur les affiches. Ils étaient 200 place des Jacobins à Le Mans, mais ils étaient plusieurs milliers dans toute la France. On en a peu entendu parler dans les médias. Oh oui, bah encore une manif du médico-social. Ils vont s'épuiser à un moment. Ah, par contre, Nordane Lelandais, oh la vache! Nordane Lelandais, c'était vraiment la personne dont il fallait entendre parler, ou parler en tout cas cette semaine, puisque a lieu son procès. Et oui, le fait divers qui prend beaucoup de place dans les informations, ça a été analysé et réanalysé par des gens qui travaillent sur les médias. Les médias eux-mêmes, non. L'important, c'est de faire du sensationnalisme. Là encore, est-ce qu'on n'est pas dans du clientélisme plutôt que de l'information? Ils étaient donc 200, ces invisibles du social et du médico-social, place des Jacobins à Le Mans devant le gros pâté pour rappeler leur existence aux autorités politiques et économiques. Toute la semaine également, des parents d'élèves, des élus, des personnels de l'éducation nationale se sont exprimés sur la nouvelle carte scolaire. Dans la Sarthe, jeudi 3 février, c'était à Montbiseau, où il y a eu une manifestation contre la fermeture d'une classe de l'école primaire. De même, l'installation sans concertation d'antennes 5G à Allonnes et Luché-Pringer entraîne la réaction des habitants, mis devant le fait accompli. Ils avouent utiliser des portables, d'accord, mais ils s'inquiètent quand même de l'exposition permanente aux champs électromagnétiques des antennes. C'est pas pas le tout. Et avoir un portable à la main pour envoyer des SMS à propos de tout et n'importe quoi, c'est autre chose que d'être sous l'antenne qui va servir de relais pour que n'importe qui envoie n'importe quoi à n'importe qui. Ce sont sans doute des gens qui croient au modèle Amish. Ben oui, si on se fie à l'analyse du banquier qui nous sert de président de la République en septembre 2020, être contre la 5G, c'est croire au modèle Amish. L'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, a pondu un rapport d'expertise en mars 2021, indiquant que tout allait bien. Même si les experts conviennent que y a pas assez d'études scientifiques pour savoir si véritablement tout va bien. Alors pourquoi déployer la 5G? Eh ben bien, surtout parce que les autres le font. Hein, on est en retard. Combien de fois on l'a entendu? Voilà une illustration de l'innovation qui innove. Quel est l'intérêt? Pour la plupart des utilisateurs de portables, la différence sera minime. Mais pour ceux qui veulent aller toujours plus vite, connecter plein d'objets et obtenir plus de débit, en l'occurrence des professionnels, la 5G c'est le bonheur, et tant pis si on observe par la suite une dégradation des milieux de vie. Il suffira de ne pas chercher à savoir. En attendant, des habitants s'agitent. Bah ouais, c'est peut-être le meilleur moyen de faire entendre raison à tous ces gens pour qui la science serait l'alpha et l'oméga, véritablement la finalité de tout ce que nous pouvons faire. Et si, en science, on peut faire quelque chose, bah il faut le faire. Quel est l'intérêt? On sait pas, mais on peut le faire. Ah bah vas-y, fais-le. On aurait pu vous parler de greenwashing, le verdissement des activités, sans qu'elles soient soutenables écologiquement. Hein. Non, ça c'est devenu un sport international. Tout le monde y va de sa mesurette qui permettra de faire un joli rapport développement durable et de passer dans les médias. Ah, ils sont forts les médias quand même. ArcelorMittal produira de l'acier vert en France. Deux points. Une très bonne nouvelle, estime Édouard Martin, ancien syndicaliste à Florange. C'est l'un des articles que l'on a pu trouver sur le site de France Info, Radio d'État, qui, justement, nous parle de cet acier vert. De la mine à la sortie des ateliers de transformation, toute la filière est impliquée pour décarboner l'acier. Très bien. Très très bien, ça fera un petit peu moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Eh ben, ça permet quand même de faire de votre acier un acier vert et même de le faire devenir propre, puisqu'il est produit en utilisant de l'énergie électrique. D'où vient l'énergie électrique? De l'hydrogène. D'où vient l'hydrogène? Ah ouais, non, mais attendez, là, faut peut-être pas aller trop loin quand même, hein. Bon, ben voilà. Alors, ben, du coup, c'est très très facile de faire du greenwashing. Il suffit d'utiliser de l'électricité à la place du charbon. Ouais, ça a l'air facile comme ça, mais bon, ce sont des moteurs électriques, hein, pour alimenter les hauts fourneaux. Et plus des moteurs à charbon, ben, ça veut dire de l'investissement. Et oui, et c'est l'État français qui va investir en partie pour aider ArcelorMittal à continuer à faire de l'acier, alors qu'on en a peut-être déjà pas mal, là, dans, un petit peu partout, dans les déchetteries. Hein, de l'acier, peut-être qu'on pourrait le réutiliser avant d'en refaire d'autres. En fait, il est très facile de devenir écologiste. Il suffit de produire moins de dioxyde de carbone. Oui, parce que l'écologie pour ces gens-là, c'est simplement les gaz à effet de serre. Toutes les pollutions annexes, tout ce que est appelé les externalités par les économistes libéraux, on s'en fout un peu. En fait, de fait, très facile de devenir écolo, et au rythme de la propagande actuelle, l'avion va bientôt devenir écolo. Oui, puisque ses moteurs fonctionnent à l'hydrogène. Non, pas encore. Ah bon, 2035. Ah ouais, ok. Pourtant, j'ai vu plein d'articles sur l'avion vert. Un avion propre, vert, propre. Et le Pékin moyen pourra donc continuer à l'utiliser sans scrupule. Au lieu de nous responsabiliser, la société de consommation doit faire de nous des insatisfaits permanents, cherchant la compensation dans l'achat de biens et de services. Et si en plus, les biens et les services sont propres, ah oui, parce qu'ils sont verts, parce qu'ils sont faits avec de l'électricité, l'accumulation de profits peut continuer en sauvant la face. La production, quelle qu'elle soit, génère une pollution. Ok ? C'est peut-être pour ça qu'il faut limiter la production. Et puis, ben, ça génère de l'entropie. Une destruction de l'agencement merveilleux de ce monde. De fait, si on veut vraiment limiter les conséquences de nos modes de vie sur l'ensemble des milieux, y compris ceux habités par les autres animaux et les plantes, il nous faut limiter nos productions. On pourrait déjà récupérer et recycler tout ce qui s'entasse dans les casses de bagnole si on veut de l'acier et d'autres métaux. Mais pour cela, il faut arrêter de parer le neuf, le nouveau, l'innovation de toutes les vertus. Une première étape, cette décolonisation de notre imaginaire, comme disait l'autre. Une première étape pour accepter une vie un peu plus simple. Et bon bah du coup la fin du monde. On aurait pu vous parler d'Orpea et du délit d'initié supposé de son dirigeant, mais on a préféré vous parler des vieux. Oui, des vieux qui parlent des vieux comme étant des vieux qui s'assument comme tels et qui nous font pas le coup de la personne âgée fragile, malade forcément qu'on doit médicaliser. Non, un vieux c'est un vieux. Un vieux c'est un ancien jeune, mais ça veut pas dire que c'est plus personne. Un vieux qui s'assume comme tel et qui n'en font pas une jaunisse. Un collectif est intitulé Vieux et chez soi. Il a pondu un manifeste en 2017 qui est apparu dans Libération, on pouvait y lire. Nous publions ce manifeste pour une vieillesse libre et assumée jusqu'au bout de la vie, parce que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont notre société organise aujourd'hui l'accompagnement jusqu'au bout de la vieillesse, parce que les vieux qui n'ont plus ni la voix ni la force de décider pour eux-mêmes se voient alors trop souvent imposer des conditions de vie contraires à ce qu'ils auraient souhaité, comme de devoir être assistés pour tous les actes de la vie ou de finir en institution. Nous sommes résolument pour que chacun choisisse jusqu'au bout les risques qu'il veut assumer, comme les désirs et plaisirs qu'il souhaite encore en toute responsabilité s'autoriser. Parce que nous ne voulons pas subir demain ce même sort, parce que malgré plusieurs années de travail, nous n'avons pas encore trouvé la solution. Et ben, si vous voulez les aider à trouver, ils seront le 14 février à la cartoucherie de Vincennes. Pour ceux qui sont déjà allés voir Ariane Nouchkine et le Théâtre du Soleil, ben c'est là. Ça sera de 14 à 20h pour la première rencontre du Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse, le CNAV, qui se fout un petit peu de la Caisse Nationale d'Allocation Vieillesse. Les vieux sont des personnes, hein, et pas juste des anciennes ressources humaines qui doivent encore rapporter et qu'on doit coller en institution pour que ça fasse de la thune. Mais finalement, on a préféré vous parler des libéraux. Pourquoi ? Eh ben parce qu'on les critique beaucoup, mais qu'est-ce que cela est-il donc, un libéraux ? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous abordions avec Karl Polanyi le sujet de l'homo economicus. Cet individu est censé connaître tous les choix possibles, qui peut donc classer ses possibilités dans un ordre de préférence cohérent. Et enfin, il prend toujours la meilleure décision, celle qui maximise sa satisfaction. Voilà comment nous le présente Jacques Généreux, un économiste hétérodoxe, à tel point que cet économiste, on le retrouve comme chemise ouvrière du programme économique de la France insoumise en 2016. L'homo economicus est donc un être terriblement rationnel, pour lequel les autres n'existent pas autrement que pour sa satisfaction personnelle. De fait, cet être n'existe pas. Non, sauf dans le cas de sociopathes avérés. Il est le produit finalement d'une série de postulats pour permettre la création de modèles mathématiques. L'inventeur de ce concept d'homme rationnel jusqu'au bout des ongles et des cheveux, et motivé par la seule satisfaction égoïste de ses buts personnels, est un certain Léon Valras. Léon Valras est né en 1834 à Évreux, en Normandie, et il meurt en 1910 à Clérens, une commune suisse sur le lac Léman. Parce que Léon Valras est un économiste qui a fait carrière à l'université de Lausanne, en Suisse donc. Il est membre de l'école néoclassique. Libéral en économie, il appuie ses travaux sur l'existence d'un marché, la nécessité d'une concurrence et dépasse les travaux des classiques, puisque c'est un néoclassique, les travaux des classiques comme Adam Smith ou Ricardo. Et la fameuse main invisible du marché qui doit permettre de trouver un prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Oui, parce qu'Adam Smith, il est surtout connu pour ça, cette histoire de main invisible du marché. Et ces notions de prix, un prix qui satisfera les besoins du plus grand nombre, puisque Adam Smith fait partie des utilitaristes qui veulent donner le bonheur le plus important au plus grand nombre. Un prix pour toute chose, défini par l'offre et la demande. Une concurrence entre les acteurs économiques rationnels et libres qui amène cet équilibre. Autant de marqueurs de la pensée libérale appliquée à l'économie. Revenons à Léon Valras. Par sa théorie de l'équilibre général, il est selon Schumpeter, un autre économiste libéral qui meurt en 1950 à 67 ans et qui est d'une autre école. En l'occurrence, non pas l'école néoclassique, mais l'école autrichienne. Eh bien, d'après Schumpeter, Léon Valras, avec sa théorie de l'équilibre général qu'on abordera peut-être un autre jour, il est le plus grand de tous les économistes, Léon Valras, d'après Schumpeter. C'est du moins ce qu'il dit à propos de l'histoire, dans son histoire de l'analyse économique. La théorie de l'équilibre général fait partie de la science économique pure, une des trois parties de l'économie selon Valras. Parce que pour lui, la science économique recouvre trois champs d'études. L'économie politique pure, on y revient juste après. L'économie appliquée, alors elle traite des rapports des humains aux choses. C'est une science appliquée qui de fait se confronte au réel et permet de créer des règles. L'économie sociale, qui est une science morale, visant à la mise en pratique d'un idéal de justice dans la création des prix. Ce champ d'études montre que Walras réintègre des éléments humains dans ses théories économiques. Il est par exemple pour l'exclusion de la terre de la catégorie marchandise. Ça ne devrait pas pouvoir se vendre. Mais son économie sociale et son économie appliquée, c'est moins intéressant pour Schumpeter de l'école autrichienne. Non, lui, ce qu'il aime, c'est l'économie politique pure et l'équilibre général, la théorie de l'équilibre général de Léon Walras. L'économie politique pure est une science pure, détachée du réel. Elle vise à générer des idéaux, voilà, des formes idéales de consommateurs ou de producteurs, des formes de prix, des formes de marché, etc. Léon Walras la présente, cette économie politique pure, dans un ouvrage de 1874 qui s'intitule « Éléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale ». L'ouvrage est résumé dans des articles, notamment dans le Journal des économistes. Tome 34 1874, je cite sous le titre « Principe d'une théorie mathématique de l'échange ». C'est Léon Walras qui parle, ou du moins qui l'a écrit. C'est une question encore débattue entre économistes que de savoir si l'économie politique est une science proprement dite ou une science d'application. Je crois pour ma part, non pas qu'elle est à la fois l'une et l'autre, car une science ne saurait être à la fois science proprement dite et science d'application, mais qu'il y a lieu de distinguer d'une part, sous le nom d'économie politique pure, l'étude pure et simple des effets naturels et nécessaires de la libre concurrence en matière de production et d'échange. Et d'autre part, sous le nom d'économie politique appliquée, la démonstration de la conformité de ces effets avec l'intérêt général et conséquemment l'énumération détaillée des applications du principe de la libre concurrence ainsi démontrée à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, au crédit. N'est-il pas nécessaire en effet de savoir au moins quels sont les résultats du laisser-passer laisser faire pour pouvoir dire que ces résultats sont bons et avantageux. Cette nécessité est tellement évidente qu'elle impose même aux économistes qui contestent à l'économie politique pure son existence. Ils font de l'économie politique pure, mais ils la mêlent à l'économie politique appliquée de telle sorte que notre rôle est moins d'affirmer la science dont il s'agit que de la mettre à part en précisant son objet, son caractère et sa méthode. Pour cela, supposons un pays où existerait en quantité déterminée telle et telle variété de services producteurs, savoir des terres, des hommes et des capitaux, et où l'on déciderait de laisser, à partir d'un moment donné, la production et l'échange s'effectuer sous l'emprise de la plus libre concurrence, du plus complet, du plus absolu laisser-faire, laisser-passer, abstraction faite de toute considération d'intérêt ou de justice. Je veux dire non pas du tout parce que l'on croirait cela plus utile ou plus équitable, mais uniquement pour savoir ce qui arriverait. Eh bien, sans attendre l'expérience, on peut dire que dans ce pays, au bout d'un certain temps de ce régime, il arriverait nécessairement trois choses. Il y aurait telle et telle espèce de produit en quantité déterminée, tant d'hectolitres d'avoine, tant d'hectolitres de blé, tant de litres de café, etc. On serait, il va sans dire, plus ou moins bien renseigné sur la statistique, par la statistique, sur ces diverses quantités de produits. Toujours est-il qu'elles seraient à chaque instant parfaitement déterminées ou mathématiques. Tous ces produits auraient chacun un prix déterminé, c'est-à-dire qu'ils s'échangeraient les uns contre les autres en certaines proportions déterminées de quantité. Un hectolitre de blé s'échangerait contre 2 hectolitres d'avoine et contre 10 livres de café, etc. Ces prix, bien entendu, seraient plus ou moins susceptibles de varier d'un moment à l'autre. Il n'en est pas moins vrai qu'ils seraient, eux aussi, à chaque instant, parfaitement déterminés ou mathématiques. Enfin, tous les services producteurs existants dans le pays auraient également chacun un prix déterminé ou mathématique. Telle ou telle terre se vendrait tant et se louerait tant. Le salaire de tel ou tel travailleur serait de tant par journée. L'intérêt du capital serait de tant pour cent par an. Tels sont donc les effets naturels et nécessaires de la libre concurrence en matière de production et d'échange. L'étude de ces effets doit, à mon sens, être poursuivie d'une manière spéciale, indépendamment de toute question et antérieurement à toute conséquence d'application. Elle constitue d'ailleurs un problème extrêmement vaste et compliqué, qu'en vue d'une solution plus facile, on peut, je crois, partager en deux autres. Laissons d'abord de côté pour la considérer plus tard cette circonstance que l'avoine, le blé, le café, etc. sont des produits et n'y voyons que des marchandises qui s'échangent sur un marché. On cherche la relation qui existe entre les quantités de ces marchandises et leur prix sous l'empire de la libre concurrence. C'est un premier problème qui forme l'objet de la théorie mathématique de l'échange et qui pourrait à la rigueur s'énoncer ainsi. Étant donné les quantités des marchandises, formuler le système d'équations dont les prix de ces marchandises sont les racines. Cette première théorie, une fois élaborée, faisons alors intervenir cette circonstance essentielle que les marchandises en question résultent de l'association de services producteurs. On cherche la relation plus complexe qui existe entre les quantités de ces services producteurs, les quantités des produits fabriqués, les prix de ces produits et les prix des services producteurs, toujours dans l'hypothèse d'une production et d'un échange régi par la libre concurrence. C'est un second problème qui forme l'objet de la théorie naturelle de la production et qui peut, si l'on veut, se poser en ces termes. Étant donné les quantités des services producteurs, formuler les systèmes d'équations dont, premièrement, les quantités des produits, deuxièmement, les prix et de ces produits, et troisièmement, les prix des services producteurs sont les racines. Ainsi envisagé, la théorie de la richesse sociale ou économie politique pure apparaît clairement avec le caractère d'une science proprement dite physico-mathématique. C'était un peu long, mais c'est juste pour vous dire que pour Léon Valras, cet homo economicus qui va forcément apparaître dans ses équations, eh ben c'est justement un idéal mathématique. Pour les néoclassiques et l'école d'économie basée sur des éléments de la philosophie libérale de la concurrence sur les marchés, l'économie politique pure est une science naturelle. Donc une science où des forces inéluctables amènent à des résultats inévitables. Cette naturalité permet d'affirmer la nature humaine, tout en la réduisant à des concepts mathématiques. Voilà donc l'écueil primordial pour tous les radicaux libres dont nous égrenons la pensée dans cette émission depuis deux saisons maintenant. Que ce soit Gunther Anders ou Danny Robert Dufour, André Gorz, Bernard Charbonneau et j'en passe, la dimension morale de l'humain empêche de raisonner comme les libéraux attachés par idéologie à l'idée de la rationalité économique qui nous mènerait toujours partout par le bout du nez. Valras est clairement conscient que l'économie n'est pas que la production de concepts, mais doit être confrontée au réel. Il sait que son homo economicus n'est pas l'humain. Pourtant, le présupposé de la rationalité économique reste d'actualité dans les études économiques. L'économie mathématisante, qui fait des hommes des éléments d'une équation seulement animée par la satisfaction de leurs besoins, aura des successeurs, comme Arrow et Debreu, dans les années 50. Elle a même été élargie, cette économie mathématisante, par Gary Becker à d'autres champs sociaux. Gary Becker, né en 1930 et fait ses études d'économie à Chicago, où il a eu comme professeur Milton Friedman, le fondateur de l'école de Chicago, un courant de pensée économique très libéral. L'école de Chicago croit au marché libre et à son équilibre naturel. Aussi, les membres de cette école prônent la dérégulation à tout va. Pas de loi, laissez faire, laissez passer. Les économistes de cette école furent à l'œuvre dans le Royaume-Uni de Thatcher, les États-Unis de Reagan, le Chili de Pinochet, j'en passe et j'ai du mal à trouver pire. Ils influencèrent également les politiques de la Banque mondiale et du FMI, ce qui conduira à la privatisation de pans entiers des économies de pays en développement, comme on dit. Gary Becker baigne dans cet environnement intellectuel. Il obtient ses diplômes à Chicago. Il s'en va travailler à l'Université de Columbia à New York, dont il part en 1968 à la suite des manifestations de militants pacifistes et des gauchistes du coin. Il retourne à Chicago pour poursuivre son travail. Gary Becker répondait ainsi à une interview dans le 3000e numéro de la revue Problèmes économiques en juillet 2010. La question: quelles ont été et quelles sont toujours vos méthodes de travail? Gary Becker: on pourrait dire qu'elle consiste à supposer que la plupart du temps, les individus prennent des décisions les plus rationnelles possibles, en particulier lorsque celles-ci portent sur des questions importantes qui les touchent de près. Cela permet de mieux comprendre ce que l'on observe sur les plans du mariage, de la fécondité et de la discrimination, autant de sujets que vous avez évoqués, puisqu'on n'est pas au tout début de l'interview. Eh oui, c'est la rationalité, le rationnel, cet homme irrationnel. L'homo economicus, voilà celui qui est l'objet des études de Gary Becker. Gary Becker obtient l'équivalent du prix Nobel pour l'économie en 1992. Alors il se fend d'un discours où l'on peut entendre: mes recherches s'appuient sur l'économie pour traiter de certaines questions sociales que les économistes n'ont pas l'habitude d'aborder. Cette conférence en décrit la méthode et en fournit des exemples, tirés de mon travail passé ou en cours. À la différence de l'analyse marxienne, l'approche économique dont je parle ne considère pas que les individus sont uniquement motivés par l'égoïsme ou l'appât du gain. C'est une méthode d'analyse. Elle ne s'en tient pas aux motivations particulières. Avec d'autres, j'ai tenté au contraire d'inciter les économistes à s'éloigner des hypothèses se limitant à l'intérêt personnel. Le comportement est déterminé par un ensemble beaucoup plus riche de valeurs et de préférences. L'analyse fait donc en revanche l'hypothèse que les individus augmentent autant qu'il leur est possible leur bien-être, de façon à approcher le niveau qu'ils jugent satisfaisant. Qu'ils soient égoïstes, altruistes, fidèles, rancuniers ou masochistes. Leur comportement s'inscrit dans une perspective d'avenir et il est également censé avoir dans le temps une certaine constance. Ainsi font-ils de leur mieux pour anticiper les conséquences incertaines de leurs actions. Rien n'empêche toutefois un tel comportement de s'enraciner dans le passé, dont l'ombre se projette sur les attitudes et les valeurs. Là, quand je lis le début, Gary Baker nous dit que non, l'égoïsme et l'appât du gain, c'est pas la motivation principale. Ce serait d'ailleurs ce que décrit l'analyse marxienne. Allons bon. Et de fait, par contre, eh bien, le but, il n'est pas l'appât du gain ou l'égoïsme, non, c'est juste de satisfaire au maximum son bien-être. J'ai l'impression qu'il nous parle de la même chose. La rationalité économique reste donc quand même le ressort. L'augmentation du bien-être par la comparaison des avantages et inconvénients, en postulant que les individus sont au courant de l'ensemble des données. Dans son discours, il prend l'exemple du mariage. L'analyse de la fécondité a une longue et remarquable histoire en économie. Mais jusqu'à ces dernières années, le mariage et le divorce, ainsi que les relations entre époux ou entre parents et enfants, étaient plutôt négligés par les économistes. Mes travaux sur la famille partent de l'hypothèse suivante. Lorsqu'un homme et une femme décident de se marier, d'avoir des enfants ou de divorcer, ils tentent d'améliorer leur qualité de vie par comparaison des bénéfices et des coûts. Ainsi se marient-ils lorsqu'ils espèrent s'en trouver mieux que s'ils demeuraient célibataires. Et divorcent-ils s'ils pensent que c'est une façon d'accroître leur bien-être. Lorsque l'on dit que cette manière de voir est sujette à controverse, les individus qui ne sont pas des intellectuels sont souvent surpris, tant il leur semble évident qu'on se marie ou qu'on divorce pour y gagner en bien-être. De fait, le point de vue du choix rationnel sur le mariage et sur d'autres comportements correspondant souvent aux intuitions économiques des personnes ordinaires. Ah, sauf que l'intuition, ils aiment pas ça, les économistes. Encore pire, les mathématisants, il leur faut de l'équation. L'intuition, eh ben, ça a rien à faire dans les raisonnements scientifiques, puisqu'ils sont mathématiques aussi. Gary Baker démonte une idée reçue. Ainsi, toujours dans son discours en 92 pour fêter son prix Nobel d'économie. Ainsi, contrairement à une opinion répandue, l'analyse économique des décisions familiales montre que les couples les plus riches ont moins de chances de divorcer que les couples les plus pauvres. Selon cette théorie, les couples riches gagnent beaucoup à rester mariés, ce qui n'est pas le cas des couples pauvres. Une femme pauvre peut effectivement se demander s'il vaut la peine de rester mariée avec un chômeur chronique. Des études empiriques réalisées dans de nombreux pays montrent effectivement que les mariages des couples riches sont beaucoup plus stables. Super ! Malgré l'affirmation du discours du début, il semble quand même que ce qui fait rester les couples riches ensemble soit une amélioration du bien-être tout matériel. Le bien-être, c'est du matériel pour Gary Baker et pour ces mathématiciens économisants. Et on se rapproche, tout de même de l'appât du gain, d'un intérêt bien compris, qui se limite à avoir. L'économie mathématisante se targue donc d'expliquer nos comportements amoureux par notre appartenance irréductible à la catégorie des homo economicus. Ainsi, des économistes ont tenté d'appliquer leur modèle de l'homo economicus au domaine de l'activité sociale. Un modèle abstrait, né des fantasmes mathématiques des économistes libéraux. Le scientisme n'est pas loin. Seulement, les humains ne sont pas réductibles à des formules et même ils peuvent collectivement faire des choix autres que celles de l'appât du gain et de la rationalité économique. Les humains n'agissent pas seulement par intérêt économique. Grande déconvenue pour les économistes libéraux, leur homo economicus n'existe que dans des formules mathématiques servant à définir des lois entre guillemets économiques, dont les exceptions sont si nombreuses dans la vraie vie que le terme de loi en devient fallacieux. Je veux pour preuve de l'inexistence de l'homo economicus, cet être mu par la rationalité économique, ce que moi, personnellement, je vis tous les jours dans le monde associatif, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale. Je vous propose d'ailleurs de chercher autour de vous des gens qui agiraient essentiellement par rationalité économique, et si vous en trouvez, de faire un calcul rapide et approximatif pour connaître la proportion de ces gens par rapport à l'ensemble de votre entourage. On verra le résultat la semaine prochaine et on parlera de cet homo economicus qui, malgré son existence tout à fait théorique et juste conceptuelle, n'en demeure pas moins un phénomène que l'on retrouve dans les politiques de nos politiciens. Et il est temps de se dire juste tout simplement, allez, Au revoir.